franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, Vincent Tardieu et Axel de Courty nous décrivaient l'organisation d'une ruche d'abeilles.
Oui, alors la société doit s'organiser. Hein. L'organisation des tâches dans la société, elle est plutôt bien connue. Il y a eu un premier levier d'organisation, c'est le vieillissement, c'est tout bête. Mais les ouvrières qui sont stériles, qui vont faire toutes les tâches autres que la reproduction, eh bien en vieillissant, elles vont faire différentes tâches. Elles vont d'abord être nourrices, parce que ça c'est très important. Les larves, elles ne peuvent pas se nourrir toutes seules, donc elles vont assurer le soin aux jeunes. Et puis ensuite, elles vont bâtir les rayons. Après, elles vont être gardiennes. Et puis finalement, elles vont faire les tâches les plus risquées quand elles seront les plus expérimentées, les butineuses et les gardiennes. Donc voilà, toute cette organisation-là, alors c'est sur le papier ça, finalement c'est très souple comme mécanisme, parce que la colonie doit s'adapter aux ressources disponibles, au climat et également au nombre de larves à nourrir. Mmh. Donc en gros, c'est l'offre et la demande. Et tout cela est géré effectivement par une communication chimique, mais également une communication vibratoire. Vincent en parlait tout à l'heure, les fameuses danses là, qui ont valu le prix Nobel de Van Frisch en 73, c'est bien la communication par les vibrations pour recruter les congénères à aller chercher de la ressource alimentaire éloignée de la ruche.
Pour leur dire à la fois, il y a de la nourriture et à quel endroit elle se trouve.
L'angle, alors la direction. Hein, la direction entre le soleil et la ruche et le site à butiner et également la distance.
C'est fascinant. Mardi, restons concentrés avec Jean-Philippe Lachaud.
Vous avez ces systèmes dont je parlais, ces différentes forces qui rentrent en compétition. Mmh. Vous écoutez quelqu'un et puis vous avez toutes sortes de pensées. Après, il faut que je fasse ceci. C'est important aussi. Donc, ces forces vont lutter les unes contre les autres et provoquer la déconcentration.
Dans un face-à-face par rapport à une personne, au moment d'un entretien par exemple, est-ce que là aussi vous avez des conseils à nous donner? Rester concentré, je ne sais pas, sur le regard de la personne qu'on a en face de soi, ou qu'est-ce qui fonctionne?
Il y a énormément de facteurs de distraction lorsqu'on est rien que face à quelqu'un en train de discuter. Le regard, c'est extrêmement distrayant par exemple. Oui. Les mouvements, sans parler de l'environnement. En fait, ce qui peut aider, c'est d'avoir une stratégie attentionnelle claire. J'essaie d'en détailler certaines. Mm-hmm. Pour l'écoute, par exemple, alors ça marche pas avec tout le monde, mais enfin, il peut arriver qu'on n'ait pas un effort énorme à faire lorsque l'autre parle pour imaginer les mots écrits, ou certains mots écrits, quand on est avec l'habitude du langage, de la lecture, etc. Donc ça, c'est un petit truc à essayer. Par exemple, vous dites France Inter, j'imagine France Inter écrit, comme ça, mentalement. Mm-hmm. Et puis comme ça, j'essaie de renouveler, comme si je transcrivais un petit peu par écrit, dans ma tête, ce que vous êtes en train de dire. Ça, enfin, je le donne, c'est à titre personnel, moi je l'essaye, ça marche parfaitement bien. J'ai essayé, ça dépend des gens, hein, c'est très personnel. J'ai fait l'expérience une fois de prendre une conférence de 20 minutes qui m'intéressait, à ce qui m'intéressait absolument pas, j'ai fait exprès. Ouais. Je dirais pas sur quel thème c'est, parce que... Mais parfaitement rasoir, j'ai fait ça et effectivement j'étais parfaitement attentif pendant les 20 minutes. Donc c'est des trucs à essayer. Mmh. Après il y a aussi un truc qui revient souvent, c'est de se poser des questions. Ça, qu'est-ce qu'il va dire après? Et après, utilisez les petits blancs aussi, vous savez. Quand quelqu'un parle, il y a toujours des petits blancs. Mmh. Dans ces blancs, vous allez loger une petite interrogation. Et qu'est-ce qui suit après? Et après, et après, et après. Donc il faut être actif, ça c'est certain. Ça va aider à accrocher.
Et à garder le fil, hein, effectivement.
Voilà, exactement.
Mercredi, les piqûres d'araignées et de serpents avec Christine Rollard et Max Goiffon.
Ça m'est arrivé une seule fois, effectivement, d'être mordu par une grosse araignée tropicale, sans conséquence.
Sans conséquence du tout.
Il y a une petite décharge électrique
sur le cou.
Non, rien. Même au niveau la morsure était indolore, puisqu'effectivement, souvent les morsures sont douloureuses quand il y a vraiment un organe venimeux, donc qui est de grande taille. Hein. Et là, c'était de petite taille, avec des crochets de petite taille. Mm-hmm. Et puis, il y a juste une petite croûte pendant une semaine et c'est tout.
Bon, Max Goiffon, de votre côté.
Eh bien, moi,
j'ai
manipulé surtout des scorpions plus que des serpents. Il ne m'est jamais rien arrivé. Je touche du bois.
Bon, vous ne manipulez pas de cobra, a priori. C'est pas le genre d'animal.
Non, c'est plutôt mon collègue Jean-Philippe Chipot qui les maniait, avec d'ailleurs beaucoup de précautions.
Ouais. Les cobras?
Oui, les cobras. Et il utilisait pour contrôler ses serpents, il utilisait un balai qui était célèbre dans le monde des herpétologistes, c'est-à-dire des spécialistes de serpents. Ouais. Et il s'en protégeait avec, donc, avec ce balai et puis d'autres outils, bien sûr.
Oui, parce que
mais je ne crois pas qu'il ait été mordu lui-même, oui. Bien qu'il ait soigné plus d'une centaine d'envenimés. Hein.
C'est ça.
Il a une expérience considérable d'un point de vue médical.
Oui. Ludovic nous dit ceci. Que faire si on est seul dans la nature et qu'on soit fait mordre par une vipère ou autre? Sucer, recracher le sang de la plaie, faire un garrot, garder tout son calme, ça c'est sûr. Mettre des glaçons, c'est pas très pratique quand on est tout seul dans la forêt.
Non, ça c'est sûr.
Ou faire pipi sur la plaie. Alors, docteur Goffon, s'il vous plaît.
Alors, de toute façon, pas de garrot et pas de suction. Hein, pas de suction à la bouche, en tous les cas.
Oui, avec le risque de récupérer le venin d'une autre façon.
Bien sûr, si on a une plaie buccale, on se fait envenimer aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut, quand il y a des serpents veniveux, il faut éviter de partir tout seul. Et il faut, il faut partir aussi avec un téléphone portable pour avertir. Parce que lorsqu'on est envenimé par une vipère, par exemple, il faut éviter de faire tout effort musculaire, ce qui n'est pas très pratique pour la personne qui est envenimée. Hein, elle doit faire un minimum d'effort musculaire qui diffuserait le venin dans tout l'organisme à concentration accélérée, si vous voulez. Hein. Donc, il faut prévenir et il faut que le patient, la victime d'une envenimation, soit transporté dans une clinique qui aura...
Donc c'est très embêtant, imaginez, ma batterie ne fonctionne plus, je suis seul, qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est très très embêtant, c'est pour ça qu'il faut donner un itinéraire avec des horaires de passage.
Oh là là, oui.
Et s'ils ne sont pas respectés, eh bien il faut savoir aller au-devant de ces gens-là.
Bon.
Il n'y a pas d'autre façon de procéder.
Bon.
En tout cas, il faut rester prioritairement...
Calme.
Calme.
Très important,
ça, c'est
pour
très,
pas justement diffuser plus vite le venin dans l'organisme.
Exactement.
Qu'est-ce que vous pensez de l'aspivenin en cas de morsure, Max Goffon?
Oui, alors la question de l'aspivenin est un petit peu délicate. Il est arrivé que dans certaines unités militaires, on impose l'aspivenin.
Mm-hmm.
En réalité, on ne sait pas. Lorsqu'on aspire, par exemple, lorsqu'on fait une aspiration à l'aspivenin, on est certain qu'on emmène un petit peu de sang qui contient un peu de venin. Mais on n'a jamais prouvé qu'on modifiait la distribution du venin dans l'organisme.
Ouais.
Et tant qu'on ne l'aura pas prouvé, on a un doute sur l'efficacité de l'aspivenin.
Jeudi, Alexandra Dur nous racontait sa consultation de diagnostic présymptomatique de la maladie de Huntington.
Oui, c'est avec Josué Feingold à l'époque où on a mis en place cette consultation parce que il y a eu la découverte d'un gène majeur dans une maladie grave, neurologique, la maladie de Huntington, pour laquelle on avait donc la possibilité de détecter l'anomalie génétique qui est coupable et qui est le coupable pour déclencher la maladie à un moment, en amont des premiers signes, c'est-à-dire de proposer un diagnostic présymptomatique à la demande des personnes à risque.
C'est ça, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de questions éthiques qui se posent dans ces changements aussi, hein, qui opèrent sur des maladies aussi graves que celle-là.
Oui. Les gens qui sont à risque pour des maladies comme celle-ci, ces personnes-là connaissent la maladie. Ce n'est pas une maladie peut-être qui arrivera comme un cancer ou peut-être une maladie d'Alzheimer. Ils connaissent bien la maladie dans la famille et ils savent qu'ils sont à risque. Donc, c'est selon leur demande, cette consultation a été mise en place.
Oui. Alors, évidemment, c'est tout le problème, effectivement, de pouvoir prédire l'apparition de maladies pour lesquelles on n'a pas forcément de traitement.
Voilà.
Donc c'est toute la difficulté dans la façon dont on s'adresse justement aux personnes auxquelles on dira peut-être qu'elles sont porteuses des gènes.
Oui, je pense que la différence est vraiment dans le terme même. Quand vous utilisez le terme dépistage, c'est parce que vous dépistez pour traiter. C'est déjà quelque chose que vous faites pour être prêt à intervenir.
Mm-hmm.
Ça arrive dans pas mal de maladies pédiatriques d'ailleurs. Mais dans le pré-symptomatique, avant que les signes soient là, si on n'a pas de prévention à proposer, la question c'est pourquoi. Et ce pourquoi peut être répondu que par les personnes à risque eux-mêmes.
Oui, donc c'est un choix, évidemment, de ces personnes. Hein,
et une liberté.
De bénéficier, effectivement, de ces tests. Ces personnes sont accompagnées aussi, réellement, dans l'annonce des résultats.
La consultation est vraiment pluridisciplinaire, là. Mm-hmm. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'en génétique, on connaît bien. Les psychologues sont très présents parce que pour anticiper quelque chose qui va venir, qui s'inscrit dans une histoire personnelle très particulière. C'est pas tout le monde vit la maladie de la même façon.
Mmh.
Et je pense que cette inscription et le timing à quel moment on va choisir de savoir pour soi est très personnel et doit être accompagné. Et les psychologues sont notre grand allié dans cette consultation. 80% des gens à risque ne veulent pas savoir et seulement 20% des personnes à risque viennent même en consultation. Et ceux qui viennent choisissent à ce moment-là pas forcément de faire le test de suite, mais le faire à un autre autre moment dans leur vie. Donc vous voyez déjà, il y a des personnes qui viennent d'eux-mêmes pour faire ce test, c'est déjà une population très particulière. Pas tout le monde veut savoir ce qui va lui arriver plus tard.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.